En France, le travail est une norme. Il permet de nous assurer une place et des droits au sein de la société. Le champ des arts dits appliqués a ses modalités et ses particularités, mais il n'échappe pas à cette convention. L'emploi qu'occupent les designers, ou le milieu dans lequel ils évoluent, est important. Cependant, il semble que les formes qu'ils créent soient principalement au centre des discussions et tendent à les définir.
Nous sommes trois designers de formation, et ce constat nous a inspiré une idée. Nous avons créé Contreforme, une collection de récits d'expériences qui s'intéresse à l'environnement des designers plutôt qu'à leur production. À chaque épisode, nous allons à la rencontre d'un praticien ou d'une praticienne, plus ou moins confirmé, dans le lieu de son choix. Il ou elle est graphiste, scénographe, designer d'objets ou de mode. Ce moment passé ensemble est l'occasion d'évoquer son cadre et son mode de vie, ses habitudes personnelles de mise au travail et ses refuges méditatifs.
Alors,
est-ce que tu m'entends bien comme ça?
Oui. Vos oreilles sont dorénavant habituées aux discussions enregistrées à distance. Ce troisième épisode de Contreforme n'y échappe pas. Mais 2020, en plein confinement, nous discutions en effet au téléphone avec Pernell, designer indépendante. Diplômée d'une prestigieuse école de création industrielle, Pernell conçoit des objets, du mobilier et des espaces intérieurs, notamment lors de résidences de création ou sous l'impulsion d'une commande. Au détour d'une conversation avec des amis, l'une de nous avait entendu parler de Pernell et de son choix, a priori surprenant, de vivre, réfléchir et créer dans un appartement parisien de 17 mètres carrés, à l'heure où de nombreux designers indépendants décident, quand ils le peuvent, de prendre en plus de leur loyer une place dans un atelier et s'assurent ainsi deux espaces distincts. Il nous a alors semblé intéressant d'évoquer avec elle sa gestion du temps, et plus précisément du temps de travail et du temps de loisir, dont les frontières, poreuses, voire inexistantes, racontent les contorsions auxquelles se plient de nombreux designers indépendants.
Est-ce que quand je fais ce genre de choses, ça fait trop de bruit ?
Bonjour Pernell, merci de nous accorder cet entretien. Alors en temps normal, c'est-à-dire en temps de non-confinement, on t'aurait demandé de choisir un lieu dans lequel te retrouver et un horaire. Est-ce que tu as une idée de ce que tu aurais choisi ?
Bah écoute, à bien y réfléchir, je crois que je vous aurais invité à la maison en fait. Parce que bah, si on parle en plus d'un lieu de travail, je pense que ça vaut la peine de le visiter. Je crois que les espaces parlent quand même pas mal des gens. Donc voilà, il est assez atypique par certains côtés.
Alors, est-ce que tu sais vers quelle heure tu nous aurais proposé de te rejoindre et quel jour ?
Ça m'est un peu égal, ce genre de détails. Je m'adapte généralement. Enfin, je commence à avoir vraiment l'habitude d'avoir des rendez-vous. Enfin, généralement, c'est à l'extérieur, donc ça me permet de bouger, de sortir un peu. Ça dépend aussi de la personne avec qui j'ai rendez-vous et selon ses propres horaires, rendez-vous impératifs.
D'accord. Du coup, ça nous mène plutôt directement à la question du travail à domicile, qui est effectué par une partie non négligeable des designers indépendants et qui a un écho particulier en ces temps de confinement, puisque une très grande partie des salariés sont en train de découvrir les joies du télétravail. Du coup, ton cas est particulièrement intéressant pour nous. Est-ce que tu as toujours travaillé seul et de chez toi ?
En tant que professionnelle, oui. J'ai même commencé un peu avant, vers la fin de mes études. On avait une école où la blague principale, c'était de dire « Tu sais quand tu rentres, mais tu sais jamais quand tu sors. » C'est un gouffre spatio-temporel. À force de croiser plein de gens différents, ouais. T'as pas forcément vu depuis longtemps. En fait, tu te mets à discuter 10 minutes avec l'un, 10 minutes avec l'autre, etc. Puis en fait, tu te rends compte que la moitié de ta journée est passée et t'as pas du tout avancé. Donc, du coup, tu te retrouves à y travailler la nuit aussi.
C'était à quelle école ?
À l'ANSI des ateliers.
Ok.
Donc ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que ça finissait par... On finissait par y demeurer, en fait. Et du coup, au niveau du... Enfin, ça a été à partir du diplôme. On avait ce qu'on appelle des bocaux, où on était à peu près 7 diplômables, plus ou moins. Hein. On pouvait aller jusqu'à 12. 7 diplômables dans la même pièce, une sorte d'open space, avec différents bureaux, un joyeux bordel, avec les maquettes et les matériaux de tout le monde. Et sauf que bah, le confinement dans un petit espace avec beaucoup de monde fait que soit on discute, soit on est gêné par les rendez-vous avec directeur ou directrice de diplôme, ou les allers-retours. Donc au final, pour vraiment pouvoir se concentrer et réfléchir, j'avais élu domicile chez moi.
D'accord. Donc c'est là que tu as commencé à travailler chez toi. Donc pour
c'est
éviter
ça.
Au final une sorte de deuxième maison qui était l'école et dans
c'est
laquelle
ça.
tu n'avais pas assez de calme, quoi.
Je me connaissais, comme tu vas pouvoir le constater, je suis une grande bavarde, ça me permettait aussi de me cadrer. Et surtout que je passais en fait la majeure partie de mes journées dans l'atelier bois. Je me levais, je prenais un café, j'essayais d'organiser mes journées avec le peu de cerveau qui me restait à ce moment-là, dès le matin, donc ce que je devais faire, dans l'ordre dans lequel je devais les faire, par où je devais passer pour gagner le plus de temps possible. Et ensuite, j'allais en atelier, on y passait la journée. Je revenais le soir avec certaines pièces à poncer ou à revernir ou à plein d'autres choses à faire encore le soir. Et de temps en temps, des pauses pour recadrer en fait le projet, etc. Et auquel cas, là, je faisais à la maison.
Tu avais les outils nécessaires à la poursuite de tes projets comme ça? Tu avais déjà commencé à t'aménager un espace de travail?
Bah, en fait, j'ai une table qui se déploie, en fait, qui me sert alternativement de table à manger, bureau, établi, surface de repassage parfois même. Ça sert à tout. Et du coup, sur la partie gauche que je peux déployer plus facilement, parce que l'autre, elle reste toujours déployée, auquel cas, j'ai installé le matériel qu'il me faut. Bah, c'était principalement du vernis, du ponçage à ce moment-là, qui prend pas non plus énormément de place. Donc, j'avais toujours des monceaux de trucs en train de sécher sur le plancher qu'il fallait que je contourne.
Est-ce que à la fin de tes études à l'ENSI, tu t'es demandé ou peut-être projeté dans, je sais pas, de premières expériences au sein de collectifs ou d'agences? Est-ce que tu as eu ces opportunités-là? Ou est-ce que il y en a pas eu et en fait c'était très bien et tu as commencé à travailler en indépendante de chez toi comme ça?
J'ai commencé directement en indépendante. Et j'ai eu pas mal d'expériences en agence ou atelier partagé, etc. Dans le cadre de missions en fait, directement en indépendante, avec des endroits plutôt sympathiques, mais rien qui s'est construit de manière pérenne. Du coup, c'était pas plus mal, en fait, en définitive, que ça se passe comme ça.
D'accord, donc ponctuellement, en fait, t'allais travailler ailleurs.
Et ça m'arrive toujours.
Ouais, c'était une de mes questions.
De temps en temps en agence ou...
Donc ces autres lieux de travail là, que tu viens d'évoquer, ils te permettent d'une certaine manière d'échapper à ton appartement?
Alors, la première année, c'était un peu flottant, bah, comme tout le monde quand on débute, hein. Temps de faire au moins un mini réseau. Après, les deux années suivantes, j'avais gagné un concours. Donc, il se trouve que les deux années suivantes, j'ai passé ma vie entre deux valises, entre deux chambres d'hôtel ou deux ateliers de résidence, entre deux trains, ce qui fait que j'étais pas beaucoup chez moi. Donc, okay. Ça a été quand même un plaisir de retrouver mon appartement après.
Ouais.
Ça me dérange pas et j'aime bien sporadiquement travailler en équipe, travailler avec d'autres pour imaginer des projets. Mais c'est un besoin d'être seule.
Donc il n'y a pas vraiment besoin d'échapper à l'appartement comme je disais précédemment, c'est plutôt l'inverse.
Je suis toujours très heureuse de le retrouver.
Tu me disais, quand on discutait avant l'entretien, que ce lieu du coup chez toi, il est assez particulier. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi?
Pourquoi? Déjà à cause de l'immeuble. Alors, je suis désolée, j'étais obligée de décrire cette... je fais une petite description de mon immeuble. J'essaie de me cadrer un peu. Impossible donc de ne pas évoquer en premier lieu son support et cadre, l'immeuble, qui se trouve être également l'organe essentiel d'une sorte de communauté terriblement humaine et sympathique, perdu quelque part à mi-chemin entre l'assommoir, la tablée du chapelier du Pays des Merveilles et la famille Tenenbaum. Et je nous inclus tous dans le lot. De l'extérieur, il s'agit d'un petit immeuble haussmannien classique et discret, sans fantaisie apparente ou détail architectural notable, qui vous plonge dès l'entrée dans une forme de pénombre permanente, renforcée par les dominantes brunes et beiges sales d'une très vieille peinture au plomb et d'un escalier défraîchi de bois sombre. La majorité des murs sont grêlés et laissent apparaître leurs enduits et leurs plâtres. Ceci dû en partie à une magistrale fuite d'eau survenue il y a une vingtaine d'années, provenant du sixième et dont on ne s'est rendu compte que lorsqu'elle a atteint le troisième niveau. Si vous grattez un peu à la bordure d'un des innombrables cratères, vous pouvez constater que la peinture actuelle n'est en réalité que la seconde à avoir jamais existé. Un immeuble haussmannien datant d'entre environ 1890 à 1934, cela fait une moyenne d'un ravalement en un minimum de 86 ans. Mais ravalement que l'on ne souhaite toujours pas particulièrement, car si la fuite d'eau venait à recommencer, ainsi nous serions prêts, m'a-t-on répondu il y a 10 ans maintenant. À mesure que vous gravissez les étages, vous pouvez voir apparaître d'innombrables objets, plantes vertes, livres, matériaux de récupération, meubles chinés sur les trottoirs et stockés ici, ou encore des tableaux littéralement exposés. Il n'est pas rare de voir ces objets bouger, parce qu'ils ont été renouvelés, parce que la compagne du propriétaire majoritaire n'en pouvant plus lui intime l'ordre de tout enlever, qui, n'y tenant plus non plus, finit immanquablement par tout réagencer quelques jours après. Ou parce qu'un voisin, et ou un ami d'un voisin, a trouvé plaisant de déplacer un objet et donc d'avoir participé à cette joyeuse étrangeté après une soirée légèrement arrosée. En ce moment, on peut trouver le buste d'un mannequin en plastique des années 80 dans une niche dès le rez-de-chaussée, ce qui peut provoquer quelques sursauts, puis une fois habitué, on est plutôt tenté de la saluer. En dernière anecdote mobilier, nous avons vécu pendant de nombreuses années avec au troisième niveau un fauteuil dit « à la reine » en velours rose, placé à côté d'une petite table et d'un cendrier, disposé ainsi pour notre Gervaise Coupeau à nous, et peut-être tenté de la dissuader de laisser la fin de ses mégots se consumer sur le bois de l'escalier. Et l'ensemble a disparu du jour au lendemain après que nous ayons tous constaté que son mari rencontrait de plus en plus de refus et de difficultés à la ramener à la maison. Comme vous pouvez l'imaginer, il se passe toujours quelque chose, tant la finesse des séparations nous permet d'en profiter. Ce qui peut aller de la colocation inattendue avec le chat d'un voisin tombé du ciel en pleine nuit, ou de la simple scène de ménage, jusqu'à la tentative de cambriolage avec un serre-joint, en passant par, beaucoup plus mémorable, l'appel à la police à cause des pompiers. Au gré des différentes aventures, nous nous sommes tous plus ou moins rencontrés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se connaît tous ou presque. Voilà.
Génial.
C'est vraiment le cadre de vie qui est absolument génial et auquel pour lequel j'ai énormément d'attachement, au final.
On le sent. En tout cas, c'est génial. À quelle occasion t'as écrit ce texte ?
Pour vous, ouais.
Génial, merci. Quel honneur.
Bah, comme on est dans un dispositif radiophonique, je voulais quand même qu'on puisse se représenter ce que c'est.
Ouais.
Et je pense que c'est aussi pour ça que je vous aurais invité toutes les trois ici, parce que je pense qu'il faut là-bas. Vu en moins une fois dans cette. Je fais de très mauvais cafés, mais j'adore en faire.
Et ça fait combien de temps que tu habites dans cet immeuble et cet appartement ?
10 ans.
Ah oui.
Ça fait 10 ans. Alors, le plus drôle, c'est qu'en fait, mon propriétaire a à peu près 5 ans plus que moi. Et c'était son premier appartement en tant que propriétaire et moi, mon premier appartement en tant que locataire. Ce qui fait qu'en fait, on a signé le bail avec tous nos parents. C'était assez drôle. Et surtout qu'en fait, je crois que je tombe amoureuse de cet appartement dès la première fois où j'y ai mis les pieds. Déjà, j'ai toujours rêvé d'habiter dans un Haussmann avec une cheminée. Et il se trouve que je vis et je travaille donc dans 17 mètres carrés. Très important à noter.
Très, très important.
Ouais, très, très important. Dans lequel se trouve une magnifique cheminée en marbre noir, qui a été transformée en bibliothèque d'ailleurs, avant que j'emménage. Et je trouvais que c'était une image à la fois extrêmement forte et gentiment ironique. Ouais, dès la première fois en fait, où je l'ai vue, je me suis dit wow, « Waouh, c'est vrai, le cœur de mon foyer se constitue de livres qui pourraient tout aussi bien servir pour une flambée. Tout un pan de la culture pourrait juste partir en fumée, en fait. » Voilà, c'est ce qui m'a fait adorer cet appart. Ça, il y a un balcon, donc type Haussmann, donc assez peu large, mais très long, qui fait toute la longueur de l'appartement et auquel on accède par 3 grandes portes-fenêtres qui donnent beaucoup de lumière à l'appartement. Et c'est ce qui le rend aussi très agréable, malgré sa petitesse.
Et du coup, je comprenais précédemment qu'il y avait une grande porosité entre les objets que tu utilises pour ta vie privée, disons, entre guillemets, et professionnelle, puisque ta table sert un petit peu à tout, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est le cas du reste de l'appartement ? Est-ce qu'il y a quand même des zones qui sont délimitées, alors même si c'est petit, pour certaines activités et au sein desquelles tu n'intègres pas le travail, quoi.
Alors, il y a une zone centrale qui reste assez vide et qui me permet de faire sécher, stocker en attendant que ça parte pour une expo. J'ai un un tabouret marchepied qui me sert également d'établi de temps en temps, sur lequel je peux venir fixer des bouts de bois avec un serre-joint, un mini-serre-joint, qui permet de scier des trucs, mais qui rebouge après. Parfois, ça se passe sur le balcon. Il y a une chose, en fait, un seul objet sur lequel je ne vais jamais en journée, sauf de manière très rare pour lire, mais quand je suis plutôt en pause, c'est le lit. Je ne m'assois jamais sur le lit en journée. Ou... C'est vraiment un intouchable. C'est vraiment dédié au soir et au repos. Quoi.
Donc il y en a bien un.
Il y en a bien un. Je crois qu'en fait c'est ça. Je crois que c'est le lit. Il n'y a que ça.
Ok, et c'est super intéressant. En tout cas, ça paraît incroyable d'avoir une production qui est plutôt en 3D, donc sans entrer dans les détails. Mais voilà, t'es pas graphiste ou illustratrice avec. Uniquement des outils 3D, tu nous parlais de serre-joint, de bois, etc. est-ce que, du coup, le fait de travailler chez toi et dans un espace qui est au final assez petit a des effets sur ta production ?
C'est très probable, ne serait-ce que par la taille de l'espace qui influe la taille des objets qu'on peut dessiner. Je m'en étais rendu compte à l'occasion d'un projet, en fait, de résidence. Le lieu de la résidence était immense par rapport, en rapport à mon appartement. Donc à chaque fois que je voyais l'objet en fait, dans cet espace-là, je me disais « Mon Dieu, ça va être trop petit, c'est pas possible. » Puis quand je faisais les maquettes en papier sur ma table, et que je le regardais dans mon appartement, je me disais « Mon Dieu, c'est immense, ça va jamais marcher. » Bon, c'était le même. Mais ça influe, ouais, de toute façon. J'ai tendance à faire moins de choses énormes, plus petits, moins nombreux.
Dans ta et manière de les penser, peut-être, aussi. Vraiment, quand t'es au tout début d'un projet...
Ça dépend. Pour les projets d'objets, sûrement, ouais. Là, je pense. Après, pour tout ce qui est de l'ordre de la scénographie ou de l'espace, là, comme je vais pas mal visiter les lieux, après, je bosse sur plan, ça devient différent.
Ouais.
Il y a la question du stockage, de toute façon, qui rentre en compte, ça, c'est sûr. Qui est hyper importante. Parce qu'à un moment, c'est chouette de produire des objets, mais si on reste avec sur les bras et qu'on ne sait plus où les stocker, bah, on finit par s'en défaire, voire les jeter. Quoi.
Ça t'est déjà arrivé ?
Ça m'est déjà arrivé. Mais généralement, c'est une sorte d'évacuation naturelle. C'est vraiment, on les considère plus, en fait. Certains sont trop vieux, du coup ils ne correspondent plus, ou ils étaient au final un peu ratés, ou on les aime plus. Mais j'ai gardé des pièces, des morceaux de test en fait, qui sont dans ma bibliothèque, on va dire. Et c'est un truc que je t'ai pas dit, c'est que je vis en colocation aussi avec 449 livres. J'ai un mur de vêtements, donc du coup, ce qui prend un... assez grande présence visuelle dans l'appartement. Et donc dans cet entassement de livres, puisque hormis la cheminée bibliothèque, je n'ai pas de meubles bibliothèque dédiés, il y a pas mal d'objets qui sont à la fois achetés en brocante, découverts par hasard et ramenés, dans une sorte de collection, et certains objets que j'ai, maquettes très bidules que j'ai pu fabriquer.
Donc tout est mélangé ?
Tout est mélangé. Il n'y a pas d'hiérarchisation, il n'y a pas de distinction.
En fait, depuis le début, j'arrête pas de t'imaginer dans 17 mètres carrés, c'est marrant. Je m'imagine comment dans la tête, tu vois, c'est aussi cloisonné. Est-ce que tout est mélangé ? Est-ce que tout est, au contraire, poreux ?
Bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, c'est pas un travail, en fait. C'est vraiment... c'est ma vie. Pour le dire de manière très grandiloquente. En fait, j'ai toujours su, mais je crois que depuis la maternelle, j'ai toujours su que je voulais devenir artiste. Je savais pas exactement quoi à l'époque. Et du plus loin que je me souvienne, je savais que je finirais mes études en art à Paris. C'est exactement ce qui s'est passé. Depuis mes 16 ans, je savais que je voulais entrer à l'ENSI. J'y suis rentrée à 19 ans. Et c'est pas du travail, en fait. C'est comme... Enfin... Je sais pas si ça t'a déjà fait ça quand t'étais petite et que t'étais en train de dessiner ou jouer à un jeu formidable et que t'étais hyper concentrée et que d'un coup tes parents t'appelaient à table. Je sais pas si t'as déjà ressenti cette espèce de soupir un peu désolant. T'es rattrapé par la réalité.
Ouais.
Et que tu dois t'arrêter.
Qui te sort complètement de ta bulle.
C'est ça. Et ça me donne toujours cet effet-là, en fait, le reste de la vie.
Donc les autres activités qui ne seraient pas quand tu penses, quand tu réfléchis à tes projets ou quand tu crées?
Ouais, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. C'est hyper trash à dire, je me rends compte.
Mais c'est intéressant que tu dises art et artiste, en fait, parce que est-ce que c'est comme ça que tu te définis? C'est pas designer?
Les frontières sont plus poreuses que ça. Pendant très longtemps, je me suis demandé s'il fallait cloisonner, puis un jour, j'ai décidé que je m'en foutais, en fait. Mes objets flirtent beaucoup avec un côté artistique. Mmh. Les espaces avec un côté d'objet et vice-versa. C'est toujours... J'aime beaucoup être... Enfin, je le fais pas forcément consciemment exprès, mais souvent, c'est à la mi-chemin, à la croisée des chemins.
En fait. Ouais. Parce que, en fait, c'est vraiment éloquent lorsque tu dis que c'est ta vie, en fait, et que c'est pas du travail. C'est une posture que j'ai l'impression qu'on trouve beaucoup plus souvent venant d'artistes, alors que peut-être les designers qui ont moins un travail d'auteur, alors après, bon, avec des grands guillemets, et puis ça dépend de ce qu'on fait quand on fait du design, mais peut-être qu'ils travaillent plus avec des commandes, avec des clients, vont plus cloisonner en fait leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Voilà, à partir de l'atelier ou de l'agence, et en fait se mettre à faire d'autres activités, et peut-être qu'on va plus trouver cette posture de... l'art et la vie, quoi, comme ce que tu disais, chez des gens qui considèrent qu'en fait, ils font un travail d'auteur et d'art, quoi, et d'artiste.
En fait, il y a une copine qui m'avait dit ça un jour, on était à l'Annecy. Je sais pas de quoi on parlait, puis d'un coup, elle me disait, pour moi, c'est du travail, en fait, ça. Et je me souviens, m'être arrêtée, ça m'avait, moi, carrément choquée, en fait, parce que ça, j'avais jamais envisagé que ce qu'on pouvait faire puisse être considéré comme du travail. D'autant plus à l'école, en plus.
Ouais.
En tout cas, c'était pas mon point de vue, c'est pas comme ça que je le vivais. La question s'est posée, se pose toujours en fait, sur la distinction entre les deux parts, entre commande et qu'est-ce qu'on te demande depuis l'extérieur, qu'est-ce qui vient de toi, entre guillemets. Comment dire? Généralement, quand je bosse en agence, c'est vraiment plutôt du travail, comme on disait, très technique en fait. Donc j'ai pas particulièrement d'affect, c'est pas moi qui l'ai créé, donc je peux faire des plans techniques de n'importe quoi, sans souci. Après, quand on commence à me demander de la créer en plus, bon, déjà, si j'accepte le projet, peu importe la somme en fait que ça nécessite, si une fois que je l'ai accepté, en fait, je peux pas faire les choses à moitié. J'ai essayé hein, pour un souci de rentabilité, mais j'y arrive pas. Je peux pas juste lâcher l'affaire et me dire oh, ça me ressemble pas, mais c'est pas grave. Voilà, je le fais dans un temps imparti et je vais tout faire pour que ce soit le mieux possible, de mon point de vue à un instant T, hein, mais. Et qui me ressemble plus, qui me parle et qui me touche aussi. Donc, du coup, ça devient plus du tout rentable la plupart du temps.
Ouais, c'est une question qui est très importante pour nous, en fait, tout l'aspect économique, en fait. Et ouais. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu considères que ton système économique est plutôt précaire ou confortable? Est-ce que tu refuses, pardon, certaines commandes, entre guillemets, qui pourraient venir de l'extérieur parce que ça ne te ressemble pas? Et comme tu disais juste là, tu ne peux pas y arriver, en fait, si tu ne peux pas y mettre de l'affect et si tu ne peux pas y mettre de toi-même. Donc, est-ce que tu vas refuser des projets quitte à te mettre dans une certaine précarité? Ou est-ce que tu arrives à trouver une sorte d'équilibre?
Ça m'est arrivé de refuser des projets, mais plus par manque de temps, parce que je commençais à en avoir beaucoup trop en même temps. Mmh. Là, ça devenait plus très possible. Mais sinon, de toute façon, le système de l'indépendance est complètement précaire. Disons que j'ai eu la chance, grâce à mes parents qui ont continué de tout me payer pendant 3 ans après mes études, de pouvoir constituer un fonds de roulement pour pallier en fait au moment ou au nombre de mois où on peut ne rien avoir, financièrement parlant, de projet rémunéré. Ce qui fait que du coup, je suis plutôt à l'aise de ce point de vue-là. Enfin, à l'aise. Comme maintenant, il faudrait pas qu'il y ait plus rien pendant des mois et des mois et des mois. Mmh. Mais du coup, j'ai quand même une assez grande liberté de ce point de vue-là. Jusqu'à présent, on m'a jamais proposé un projet qui m'a... répugné ou qui m'a ou c'était pas possible. proposé une... Là, c'est un peu différent, mais il n'y a pas de créa. On m'avait proposé une place en tant que professeur dans une école avec un système où, en fait, j'allais me retrouver à payer pour travailler. Du coup, j'ai dit non, je vous explique, c'est pas possible.
Pourquoi payer, notamment au niveau des déplacements, par exemple?
Ouais, où en fait, la rémunération allait tellement... je crois qu'il allait me rester 40 euros à la fin, quoi.
Ouais.
Donc, c'était juste pas possible. Pourtant, ça m'est déjà arrivé de mettre de ma poche sur certains projets. Autant, j'essaie de plus le faire, parce que c'est vraiment débile.
Mais c'est peut-être parce que c'était des projets qui étaient de ton initiative.
Pas forcément.
D'accord. Je reviens sur quelque chose que tu as dit au début de l'entretien, qui a retenu mon attention et qui fait le lien maintenant. Tu parlais de la productivité et du fait que tu peux culpabiliser parfois si tu te mets à lire et que tu as l'impression que ce n'est pas productif. Est-ce que tu pourrais parler de ton rapport justement à la productivité, à la rentabilité? Est-ce que c'est une source de stress? Et si oui, est-ce que c'est accentué par le fait que tu travailles seule, en indépendante et chez toi?
C'est plus une source de stress. Ça l'a été au tout début de quand j'ai commencé à travailler en indépendante. Il y avait tellement de sources de stress, genre mon dieu, j'ai plus rien pendant quelques mois, quelle horreur. Oh mon dieu, j'ai trop de projets. Oh mon dieu, je viens de signer, enfin surtout en CNE en fait, on signe des contrats parfois assez impressionnants. Notamment le contrat en marché public où en fait je suis responsable de tout et quoi qu'il arrive on se retournera contre toi. Donc j'ai tellement stressé qu'à un moment, je me suis dit « Ok, donc en fait, on va arrêter. On va arrêter de stresser parce que ça va juste pas être possible. » Donc non, je suis assez sereine de ce point de vue-là. Il y a des périodes plus ou moins dures et charrettes. Dans ces cas-là, je prends une grande inspiration et j'abats le travail. Ça correspond souvent en fait à des périodes où c'est vraiment c'est moins de la créa, c'est plus « faut appliquer », quoi.
Ouais.
Méthode, plan... adapter, choisir les épaisseurs, transformer en fonction des réalités. Enfin, du coup, c'est plus simple, en fait. Et en termes de créa, ça dépend des projets. Selon les deadlines, c'est variable. L'un des derniers, il a fallu quand même se concentrer et faire le citron pour trouver l'idée. On avait très peu de temps pour le faire. Mais en règle générale, j'arrive à trouver une forme d'équilibre là-dedans, qui fait que ça m'angoisse moins.
Donc le fait d'être indépendant, te, et seul, et chez toi, n'est pas du tout un facteur aggravant au final.
Non, moi ça me va. Après, tout n'est pas parfait dans notre statut, loin de là. Parce qu'en fait, on travaille vraiment sans filet. Comme on peut, c'est dramatique en ce moment, pour beaucoup, pour énormément de gens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail, on n'est plus payé. On n'est plus payé, on mange plus, quoi.
Ouais.
Ça m'est déjà arrivé pour une CNO, avec ce contrat en marché public. Mais c'est avéré que j'ai dû finir un montage avec 39 de fièvre en haut d'un escabeau. Quoi.
Obligé, quoi.
Obligé, j'ai signé un contrat. À telle date, ça doit être prêt. Point.
Pas de sécurité, pas d'arrêt maladie.
Pas d'arrêt maladie, pas de sécurité. Après, j'ai rarement pris de week-end, de jours fériés ou de vacances. Donc... avant de devenir indépendant, en fait, faut savoir plus ou moins ce qui nous attend, et faut se connaître et savoir ce qu'on est prêt à accepter ou refuser. Parce qu'il y a des indépendants qui arrivent très bien à cloisonner, il n'y a pas de...
Nous, avec Contreforme, on aime bien parler des semaines et des journées type des designers. Moi, j'arriverai à la conclusion toute seule que toi, tu n'en as pas.
Non, aucune.
Et voilà, et que tout peut s'adapter, arriver à n'importe quel moment, et toi, tu vois en fonction. Donc... tu disais que, par exemple, tu travailles le week-end, tu t'accordes des vacances en fonction de ce que tu as à faire, j'imagine. Donc tu peux, par exemple, ne pas travailler un lundi, mais travailler un dimanche, c'est ça?
C'est ça.
Ok.
Et souvent, je travaille du lundi au dimanche, pour être honnête. Il n'y a pas de journée de type, par contre, pour pouvoir avancer quoi qu'il arrive, j'essaie de... soit sur papier, soit dans ma tête, d'avoir une idée de ce sur quoi je veux et je dois avancer sur une semaine, par exemple. j'ai besoin de visualiser sur papier les dates de rendu, de rendez-vous, etc. Donc je me suis fabriqué un agenda où, un peu comme sur les téléphones, par mois, il n'y a que les jours qui apparaissent, enfin, les numéros des jours qui apparaissent. Et je les entoure et je les colore en fonction des projets. Donc chaque projet a une couleur. Et ça marque donc mes rendez-vous extérieurs, mes déplacements. Et du coup, ça me permet de visualiser en fait le temps et le nombre de jours qui me restent pour créer à l'intérieur de ça, quoi. Très peu, il y a quelques années, j'avais très peu de jours pour créer, alors j'étais toujours en déplacement. À tel point que la SNCF m'avait envoyé un message pour me dire que en une année, j'avais réalisé 21 651 km avec eux.
Waouh. Contribue à sauver la planète.
C'est ça. Heureusement, ça s'est un peu calmé. J'ai besoin quand même de visualiser ce que j'ai à faire et les rendez-vous extérieurs pour pouvoir placer là-dedans et que ça me permette de rester justement flexible et de pouvoir m'adapter. En train de bosser sur un projet, d'un coup, en fait, on t'appelle sur un autre, alors du coup, t'es obligé de switcher et voilà. Mais tu sais que tu peux rattraper les wagons parce que t'as à peu près planifié, t'as mis une trame derrière, quoi.
Et ça génère pas d'anxiété ou de stress de justement ne pas avoir un fil directeur, mais savoir que tu peux être appelé à n'importe quel moment à en fait switcher, te mettre sur un autre projet, réadapter ton cerveau à ce projet avec de nouveaux interlocuteurs, de nouveaux outils, ou pour toi justement c'est plutôt source de, enfin je sais pas, d'énergie en fait de pouvoir travailler comme ça.
Au début c'était super dur parce que je sortais de l'école, il y a dans les écoles généralement on nous apprend à un projet après l'autre. Au tout début où je travaillais, c'était quand même bien encadré. Une des premières fois où j'ai bossé, c'était avec un de mes anciens maîtres de stage. Donc du coup, c'était quand même assez tranquille de ce côté-là et rassurant. C'est venu petit à petit. C'est-à-dire qu'on, de toute façon, on m'a pas appelé tout de suite pour X projets à la fois. Donc c'est un apprentissage qui s'est fait sur quelques années. J'ai pu aller jusqu'à 8 projets en parallèle. Mais sinon, le fait de pouvoir changer assez souvent de projet ou de façon de faire ou de rythme, c'est quand même hyper agréable pour moi.
Ouais. J'ai cru comprendre que du coup il y avait peu d'activités en dehors que tu affectionnais, mais est-ce qu'il y en a quand même dont tu pourrais parler?
J'ai arrêté le sport quand je suis rentrée en école d'art. Si une fois par semaine j'ai rendez-vous et je vois ma plus vieille amie, mon amie d'enfance, 19 ans, on se connaît. N'est pas du tout dans le monde de l'art. Et si toutes les semaines on va soit à une expo, soit on se balade dans Paris, je crois que ça pourrait correspondre à ça.
Comme un rituel.
Comme un rituel. Je crois que je passe mon temps à travailler en fait.
Enfin, à pas travailler.
Oui, il y a un livre superbe que m'a fait découvrir un de mes anciens directeurs de diplôme qui s'appelle Je dors, je travaille. C'est une artiste, un couple lui avait commandé un vase au début, tout le départ. Et en fait, en venant visiter pour voir leur habitation, elle avait commencé à évoquer le rapport avec la cheminée, ou ce qui aurait pu être génial de faire, etc. Donc finalement, ils lui ont commandé la cheminée, en plus du vase. Et je crois qu'elle a fait ça à peu près toute sa vie. Et je trouvais cette formule très beau, enfin très belle, oula, je vais y arriver. Cette formule très belle. Je dors, je travaille. Mais ce n'est pas un travail. C'est comme jouer. Alors, jouer extrêmement sérieusement en essayant de jamais me prendre au sérieux. Notamment quand on travaille des choses aussi intangibles et fuyantes que la matière et la couleur, ça force à en rire. Souvent. Tu peux passer des semaines, en fait. C'est pas le temps que tu vas passer sur un projet qui va déterminer sa valeur ou son importance ou sa qualité.
Ce confinement, il change quelque chose pour toi?
J'aimerais bien te dire que oui. un peu aussi quand même. Disons que depuis les grèves, je marchais énormément. Ça m'arrivait de marcher jusqu'à 80 minutes par jour, notamment pour me déplacer aller et venir d'un lieu où je finissais d'emballer un projet. Et ouais, la marche me manque pour le coup. Me balader dans Paris, là, ça devient un peu dur parfois, mais hormis ça, pas tellement. Pas tellement. Mais parce que j'aurais beau être enfermée, je me sentirais jamais enfermée de toute façon.
Ouais.
Soit mon cerveau part un peu tout seul. Et du coup, non, je me sens pas punie, quoi.
Ouais. Ton lieu de vie et de travail et de production n'étant pas subi, mais vraiment choisi et
ça.
Aimé.
Du coup, c'est pas une souffrance, en fait.
Ouais.
J'ai fait en sorte de me sentir le mieux possible dans cet appartement. Du coup, plus le fait que j'ai un balcon, ça aide quand même pas mal. Parce que j'ai quand même ce lien vers l'extérieur.
Oui.
Quoi qu'il arrive.
Du coup, je repensais à une chose que je t'ai pas demandé par rapport à l'appartement. J'ai bien compris que c'était par amour, par goût et que voilà. Mais est-ce qu'il y avait aussi des raisons économiques à ce choix, par exemple éviter le coût de la location d'un atelier supplémentaire, le coût des déplacements, ou est-ce qu'il y avait aussi des raisons pratiques, donc être vraiment flexible sur tes horaires, par exemple, t'éviter des temps de transport?
Pour tout ça à la fois, pour des raisons financières, ça c'est certain. Je voyais pas l'intérêt en fait de payer double loyer pour faire la même chose aux deux endroits. Et surtout, ouais, quand je me lance dans un projet où ça arrive assez souvent que je me retrouve à travailler encore à 4h du matin. Et je voyais pas l'intérêt en fait de devoir me déplacer dans ces horaires-là pour en emmenant du matériel d'un point A à un point B en fait. Alors j'aurais pu faire la même chose sur place, quoi.
Ouais.
Donc du coup, c'est pour à peu près toutes ces raisons-là. Mais si, de toute façon, il y a une question financière, ça c'est sûr. On a pas mal discuté avec des amis, parce que beaucoup ne comprennent pas, en fait. Enfin, comprennent pas. Ça les étonne, en fait.
Ouais. C'est peut-être parce qu'ils se mettent à ta place aussi, que ça leur paraît impensable pour eux.
Oui, c'est ça, surtout dans 17 mètres carrés, la plupart. Comment tu ne deviens pas complètement folle? Déjà, peut-être parce que je le suis déjà, donc... déjà, ça aide. À ceux qui me demandent des conseils, qui débutent, etc., je leur dis souvent, en fait, le plus important, c'est de se connaître. Et de savoir ce qui nous convient à nous. Parce que c'est pas parce que l'un a besoin de ça que l'autre en aura besoin aussi. Pour pouvoir créer, je pense qu'il faut se sentir assez à l'aise et assez en sécurité pour pouvoir laisser de la place à l'imagination ou à la création. Et certains ont besoin, en fait, de rencontrer d'autres gens tous les jours, de parler d'autres choses et d'avoir cette coupure et ou pas. Comme je croise de toute façon beaucoup de monde de par mon travail, de toute façon j'alterne, je suis pas complètement toute seule.
Oui.
Dans tous les cas. Et on travaille rarement seul en fait dans nos métiers. Il y a toujours une équipe, il y a toujours même dans les projets perso aussi, il y a une part éventuellement en amont qui est faite de son côté. Après, de toute façon, ça va être développé et adapté et transformé avec d'autres. Ou la personne qui gère la prod, avec qui on est énormément en contact, en fait. Passe beaucoup de coups de téléphone, d'aller-retour de mail, de... Idem dans les résidences. Surtout quand ce sont des résidences où on produit nos pièces, c'est pas nous qui les faisons personnellement. Donc, les pièces portent aussi l'empreinte, en fait, des artisans avec qui on travaille. Parce que c'est vraiment un... C'est vraiment le fruit d'une discussion et d'une rencontre. Et c'est pas tout seul non plus.
Oui.
Ne serait-ce que dans les transports. Vous passez votre vie dans les trains, vous en croisez du monde.
C'est sûr, les interactions sont multiples.
C'est ça.
En tout cas, merci beaucoup.
Bah, merci à toi.
Alors, pas de nous avoir reçus, parce qu'on n'est pas vraiment là. Mais en tout cas, d'avoir pris le temps de discuter avec moi, c'était très agréable.
Ben, merci à vous d'avoir pensé à moi, c'est très gentil.
L'équipe de Contreforme adresse un grand merci à Pernelle d'avoir accepté cette invitation, à Clara Borgen pour le montage de l'épisode et sa réjouissante implication dans le projet, à Duradio pour son soutien technique, ainsi qu'à Kevin Gotkowski pour la musique de l'émission. À bientôt pour le 4e épisode de Contreforme.
Contreforme est un podcast créé par Manon Bruet, Nivine Chekoun et Serena Evely.